La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, bonjour et bienvenue à La vie des idées. Le Parti québécois a longtemps été le véhicule historique et politique du projet souverainiste. C'était le grand accoucheur du peuple québécois, celui qui devait urgemment faire du Québec un pays. On cherchait alors, naturellement, le chef capable de faire aboutir ce projet. Chef charismatique de préférence, capable de fendre l'histoire et, lorsqu'elle va dans un mauvais sens, d'en renverser le courant. C'est ce qui avait conduit les membres du PQ, en 2015, à faire le choix de Pierre-Carl Péladeau. On croyait avoir trouvé l'homme capable de ranimer un mouvement moribond et capable aussi de le conduire sur le chemin de la victoire. La démission toute récente de Pierre-Carl Péladeau, que plusieurs associaient donc à la dernière chance de l'indépendance à court terme, oblige le Parti québécois à se poser des questions difficiles. Est-il encore capable de mener le combat souverainiste? Quelle est la mission historique du souverainisme aujourd'hui? Tenir un référendum rapide, coûte que coûte, ou garder vivante l'idée d'indépendance dans un contexte historique qui lui est très défavorable? Comment rassembler les nationalistes dispersés dans les autres partis politiques? La chose est-elle même possible? Pour poser ces questions et bien d'autres, je recevrai Jean-François Daou, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal et associé à la chaire de recherche en études électorales. Bonjour.
Bonjour.
Et David Leroux, qui tient le blog Espace, sur lequel il réfléchit aux questions politiques qui traversent notre société, un blog que je me permets de vous recommander d'ailleurs. Bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Alors, première question, donc je vous reçois aujourd'hui pour parler de cet enjeu qui relève à la fois de l'actualité, mais d'une certaine manière de l'histoire lourde du Québec. Je poserai la question à Jean-François Daou. Que retenir du passage de Pierre-Carl Péladeau à la direction du Parti québécois? S'agit-il, comme vous l'avez suggéré, si j'ai bien compris, de l'échec de ce qu'on pourrait appeler l'indépendantisme de la dernière chance?
Ben oui, comme je l'ai suggéré récemment dans un texte, pour moi, c'est clair que Pierre-Carl Péladeau représentait la dernière chance du Parti québécois concernant l'urgence d'agir, et c'est précisément le discours qu'entretenait Pierre-Carl Péladeau, et on doit lui donner qu'il a été constant dans ce discours-là, même une fois qu'il a été élu. Il a toujours parlé de l'urgence de faire du pays, et maintenant, il s'en allait vers une phase de convaincre davantage les Québécois en prévision de 2018. Donc, il a été consistant de ce point-là, mais cette carte-là a été jouée. Et aujourd'hui, on sait qu'elle a été que cette carte-là n'est
pas gagnante.
Quand
on dit la carte de la rhétorique de la dernière chance, c'est-à-dire
tout à fait.
On fonce une dernière fois et cette fois-ci sera la bonne.
Ben, c'est-à-dire que à court terme, les chiffres nous montraient que Pierre-Carl Péladeau était le seul leader qui pouvait nous permettre de battre les libéraux. Et donc, en ce sens-là, il s'agissait de la carte de la dernière chance parce que Bernard Drinville, Martine Ouellet, Jean-François Lisée, etc. ne réussissaient pas à scorer aussi fort que Pierre-Carl Péladeau malgré leur discours plus, disons, un peu plus mou sur la souveraineté. Alors, Pierre-Carl Péladeau était, en quelque sorte, avait tout ce qu'il fallait pour être qualifié de sauveur, même si tous les membres du Parti québécois n'assumeront pas le mythe du sauveur. Il avait tout ce qu'il fallait et malgré tout, cette carte-là s'avère perdante. Aujourd'hui.
David Leroux, je vous pose la même question. Que retenir du moment Pierre-Carl Péladeau?
Que retenir du moment Péladeau? Que dire? C'était certainement le candidat à la chefferie lors de la dernière course qui était le plus résolument souverainiste dans son discours. Il était un symbole, à mon sens, Pierre-Carl Péladeau. Non pas de la dernière chance, par contre. Je trouve qu'on est un peu trop dramatique là, quand on dit ça. Oui, il parlait sans relâche de ses motivations à faire du Québec un pays. Je crois qu'il faut quand même observer qu'est-ce qui est arrivé au sein du Parti québécois pendant son règne. Est-ce que son discours s'est traduit en actes concrets? Est-ce que le Parti québécois s'est réellement exprimé de façon claire, nette et précise sur la souveraineté, outre son intention de la faire? Alors, je crois que Pierre-Carl Péladeau voulait travailler dans ce sens-là. J'ai par contre pas l'impression qu'il a pu aller jusqu'au bout là, de ce qu'il voulait faire. Je l'ai senti se faire stériliser un petit peu Pierre-Carl dans son...
Autrement dit, Pierre-Carl Péladeau a moins pécapisé le PQ que le PQ n'a transformé Pierre-Carl Péladeau en instrument de son... comment dire, en représentant de son appareil et de sa culture politique?
Essentiellement, oui. C'est ce que je pense.
Jean-François Daou, vous ne... J'aimerais revenir un instant sur la notion de dernière chance, qui me semble avoir plusieurs significations possibles. C'est-à-dire, il y a ceux pour qui on vous dira dernière chance au sens où c'est la dernière chance de la séquence politique ouverte avec la Révolution tranquille, donc la course au référendum, le grand récit de l'accomplissement référendaire qui va drainer les vagues jusqu'au chef qui portera enfin la victoire. Il y a ceux pour qui la notion de dernière chance a une signification peut-être un peu plus dramatique. C'est ce qu'on peut appeler la dernière chance démographique, à laquelle le Pierre-Carl Péladeau avait lui-même fait référence pendant la course à la chefferie en disant qu'au rythme où le Québec connaît une mutation démographique aujourd'hui, un jour les Québécois francophones ne seront plus assez nombreux pour être capables de porter la victoire souverainiste, de faire gagner un référendum finalement. Par dernière chance, on peut entendre peut-être aussi le fait que le Parti québécois aujourd'hui est à ce point, le mouvement nationaliste est à ce point éclaté, qu'il est de plus en plus difficile pour le Parti québécois dans les circonstances de prendre le pouvoir et de lancer une démarche référendaire. Alors, qu'entendiez-vous par référence à la dernière chance lorsque vous évoquiez ça dans votre texte du devoir?
Eh bien, pour moi, la dernière chance faisait référence en premier lieu à un des rôles du Parti québécois qui lui était attribué. Vous l'avez mentionné dans votre introduction, c'est de faire de façon urgente la souveraineté. Et le mot urgent n'est pas banal. Et c'est pour moi ça dont il est question lorsque je veux dire que c'était la carte de la dernière chance, c'est-à-dire la faire à court terme, de façon urgente, en laissant un flou potentiel qui pourrait laisser croire qu'on aurait un référendum dans un premier mandat, par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la dernière chance. Par contre, c'est pas non plus impossible que ce soit la dernière chance d'un point de vue démographique. Par contre, j'oserais pas aller jusque-là à ce jour. Et dans le cadre d'un contexte historique très difficile pour la souveraineté, c'est également, on peut croire que c'était potentiellement la dernière chance de former une alternative crédible aux libéraux, mais je vois que David veut répondre là-dessus.
Oui, ben je veux simplement tempérer peut-être un peu là, le contexte historique extrêmement difficile. On est tout de même là, à 41% d'appui selon le dernier sondage Léger pour la souveraineté, et même pour une souveraineté sans partenariat. Donc c'est un sondage qui est paru, je crois, en fin de semaine dans Le Devoir. Donc c'est un sondage Léger, Le Devoir.
Mais vous n'avez pas l'impression que c'est un peu comme 78% des Québécois qui se disent catholiques, c'est-à-dire une préférence morale sans conséquences pratiques?
Oui, ben voilà. Alors, une raison de plus pour que le Parti québécois propose une approche pratique convaincante pour la souveraineté. Alors, peut-être qu'il faut être capable de cristalliser cet appui-là et de lui donner une assise dans la réalité. Et c'est le rôle que le Parti québécois devrait, à mon avis, adopter. Là.
Mais évidemment, on peut tempérer l'idée d'un contexte historique très difficile pour la souveraineté en disant qu'on est à 41% et que ça tournait dans ces eaux-là quelques mois ou quelques années à peine avant le référendum de 95. Évidemment, c'est très encourageant et ça peut remettre le sourire aux lèvres de plusieurs. Mais lorsque je dis que c'est un contexte historique très difficile, c'est en tant que Parti québécois, moteur politique, en tant que parti qui est appelé à gouverner l'État et de mobiliser tout ce qui vient avec l'État pour aller dans le sens de son objectif principal, c'est-à-dire de faire du Québec un pays. Et dans ce sens-là, je crois que oui, le Parti québécois est en contexte très difficile.
Jean-François Daou, vous suggériez à la fin de votre article, vous dites, évidemment, à moins que je ne vous ai mal compris, vous dites qu'il ne s'agit pas pour le Parti québécois de renoncer à l'idéal d'indépendance, mais il doit désormais accepter qu'il ne s'agit plus d'un projet qui est appelé à se réaliser à court terme. Et vous nous disiez, à partir de là, il y a deux options pour lui. La première, c'est une forme de nationalisme autonomiste version CAQ, d'une certaine manière, ou se camper clairement à gauche, avec, je devine, une forme de nationalisme peut-être indéfinissable dans les circonstances. Alors, quelles sont pour vous, si j'ai bien compris, les deux options qui se présentent pour le Parti québécois dans les circonstances? Et je vous poserai aussi la question de David Leroux. Quelles sont, selon vous, les grandes options qui se posent dans le contexte qui s'ouvre? Mais Jean-François Daou d'abord.
Bien, somme toute, vous avez très bien saisi. Premièrement, il y a la possibilité d'une espèce de nationalisme de droite, d'un point de vue identitaire, disons-le ainsi, grossièrement, mais également pragmatique au niveau économique, c'est-à-dire assez flexible, peut-être renier un petit peu la social-démocratie historique qui caractérise le Parti québécois pour plaire à une autre frange de la population et clairement se détacher de Québec solidaire. Parce que présentement, le Parti québécois se retrouve dans une espèce de centre, ou en tout cas se retrouvait dans une espèce de centre et perdait les nationalistes de droite à la CAQ, mais perdait également à la gauche avec Québec solidaire qui continue de progresser lentement, mais ne perd certainement pas des plumes. Ils font toujours autour de 10%. Le dernier sondage leur donnait 14%. Alors, le Parti québécois était dans une drôle de position où il ne scorait pas d'aucun côté. Maintenant, si on accepte d'établir une feuille de route commune. C'est une expression très populaire ces temps-ci. La feuille de route commune, pour moi, elle va porter davantage sur des enjeux qui touchent au mode de scrutin, par exemple, qui est au cœur de la gauche québécoise. Mode de scrutin, on a vu récemment comment ça fait, ça peut faire gronder la gauche dès qu'on refuse de discuter d'une motion du salaire minimum à 15 $. Et bien, le mode de scrutin, le salaire minimum à 15 $ de gauche, c'est tous des enjeux importants, mais qui vont faire en sorte que la souveraineté va être relayée au second plan et que la population va juger d'abord et avant tout, le parti ou la feuille de route commune ou une alliance, on ne sait pas trop pour l'instant, sur ces prises de position-là.
J'aurais deux questions néanmoins pour suivre. Que dans le scénario que vous dessinez, c'est-à-dire une espèce d'alliance PQ, QS et ce qui peut rester d'option nationale, qu'est-ce qui reste, que fait-on de l'option souverainiste? Et deux, comment voyez-vous de ce qu'on a appelé le virage identitaire pris en 2007, qui a conduit à la Charte des valeurs? Qu'est-ce qui reste de ce virage identitaire? Doit-il être congédié, oublié, relativisé? Comment comprenez-vous cette avenue?
Bien, pour la deuxième question, clairement, on s'en détache. Le Parti québécois devra s'en détacher. Ce sera une des conditions probablement exigées de la gauche, que le Parti québécois se détache de ce nationalisme identitaire-là. Et c'est là où vraiment on voit que la souveraineté est relayée au second plan. Parce que on va toute l'attention va non pas être mise sur comment on fait la souveraineté du Québec, comment on la promouvoit au sein de la population québécoise et éventuellement par quel mécanisme on y arrive, mais bien vous êtes-vous bien excusé de votre histoire de la charte en 2014,
mais
en 2012?
Mais est-ce que dans ce cas-là, le Parti québécois n'est pas amené à céder devant plus faible que lui?
Tout à fait. Mais c'est céder sur un point, le nationalisme identitaire, dans le but stratégique de pouvoir reformer le gouvernement et potentiellement mobiliser tout ce qui vient avec l'appareil étatique dans le but de promouvoir la souveraineté. Donc c'est céder sur un point à la gauche québécoise, comme le Parti québécois devra céder sur d'autres points également. Est-ce que ce sera le salaire minimum à 15 $? Est-ce que ce sera en promettant une allégeance au mode de scrutin proportionnel? On ne sait pas, mais oui, le Parti québécois devra céder à, j'ouvre les guillemets, plus faible que lui.
David Leroux.
Alors, je crois que, au contraire de M. Daou, il ne reste pas tant d'options intéressantes pour le Parti québécois aujourd'hui, sinon que celle de se refonder en mettant au cœur de son projet le projet souverainiste, la souveraineté du Québec. Je m'explique. C'est une question d'identité de parti, à mon sens. Le Parti québécois, pour attirer des votes et pour structurer sa base militante, doit être en mesure de se définir par rapport aux autres options politiques en place au Québec. En abandonnant ou en reléguant au second rang de son projet l'indépendance et la souveraineté, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il s'enlève l'élément qui le contraste le plus des deux partis autres que le Parti libéral du Québec, c'est-à-dire la CAQ et Québec solidaire. Je ne vois pas en quoi... En fait, à mes yeux, c'est presque se saborder que de faire ça. C'est de se mettre en position c'est d'adopter la position du joueur faible, en fait. À mon avis, là, le Parti québécois doit donc repenser son programme en intégrant non pas la souveraineté comme une option dans un vaste projet de société, mais comme la base sur laquelle il doit construire l'entièreté de son programme politique.
Mais David Leroux, oui. À tout le moins, c'est une analyse que je fais aussi, je ne le cache pas. Il y a aujourd'hui une forme de dépression historique autour du mouvement national québécois, c'est-à-dire le grand cycle qui était consacré à la résolution de la question nationale, soit par la société distincte, soit pour l'indépendance, semble terminée. Et à la question nationale, les Québécois semblent souvent répondre « Mais pourquoi nous intéresserait-elle ?» C'est une question parmi d'autres. Dans un vaste éventail politique, elle ne structure plus le jeu politique. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'en se fixant principalement sur la question de la souveraineté, le Parti québécois risque de donner une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus?
Bon, une question que les Québécois ne se posent plus... Est-ce vraiment le cas? Disons que c'est c'est ce que je crois on aime à nous faire croire dans les médias montréalais. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas moyen de faire renaître une certaine ferveur au sein de la population. Je crois que les germes sont là. Les appuis à la cause indépendantiste étant, à 41%, bon, disons que ça oscille, là, grosso modo, entre 35 et 40% en général, là. C'est à peu près stable. Alors, les gens sont pas fermés à l'idée. C'est simplement qu'il faut que le Parti québécois réussisse à donner une assise dans la réalité à ce projet-là. C'est vraiment, pour moi, c'est là que ça doit s'en aller, là.
Ouais. Jean-François Daou, est-ce qu'il y a, donc, vous nous dites, le Parti québécois, d'une certaine manière, pour survivre, doit mettre au congélateur, non pas mettre au rebut, mais mettre au congélateur son option fondamentale. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui, des conditions d'une possible renaissance de l'option souverainiste dans la population, ou sommes-nous dans un contexte politique ou historique où la passion souverainiste n'intéresse plus que le courant, on pourrait dire, nationaliste historique, très clairement identifié, qui fait, je crois, 22-23%, c'est-à-dire l'indépendantisme historique. Est-ce que vous croyez que donc les conditions d'une renaissance sont là?
Pour l'instant, je ne crois pas que les conditions soient là. Et c'est intéressant que vous parliez de 22-23%. Je crois que c'est comparable avec la dernière élection fédérale, il y a à peine quelques mois. On peut dire que la souveraineté est entre 35-41%, mais c'est probablement des gens qui, comme au Québec, se disent catholiques, mais ne pratiquent pas. Et lorsque vient le temps de choisir, par exemple, lorsqu'on a une élection fédérale, eh bien, c'est seulement 19,8% des gens qui véritablement ont affiché leur souverainisme fort. Alors, on n'est pas dans un 35-40% fort, selon moi, et ça m'amène à dire que c'est simplement le courant historique qui reste, on peut dire 22-23%, peut-être un peu plus si on est optimiste, peut-être à 19% si on regarde les résultats du bloc. Mais somme toute, les conditions, selon moi, ne sont pas là. Ce qui n'empêche toutefois en rien la possibilité que le discours se renouvelle, que ça passe par un effacement au profit de la gauche ou carrément un effacement au profit d'un nationalisme droite style CAQ. C'est pas impossible que ça se renouvelle, mais présentement, ma réponse courte serait non, les conditions ne sont pas là.
Imaginons, je vous transforme pendant un court instant en stratège politique. Imaginons que vous n'êtes pas optimiste sur l'état des choses actuellement, ce qui est peut-être l'autre nom du réalisme. Et pourtant, vous cherchez à trouver les variables sur lesquelles le Parti québécois peut jouer, ou les souverainistes, par exemple, peuvent jouer pour être capables de faire renaître, je ne dirais pas une passion, nous ne sommes pas au moment de Meech, mais un intérêt potentiel pour la cause de la souveraineté. Est-ce que vous identifiez des variables possibles, ou pour l'instant, tout simplement, ça nous échappe et faut attendre que l'histoire bouge d'elle-même pour qu'on puisse de nouveau avoir une emprise sur elle?
Bien, moi, je crois sincèrement que de montrer aux Québécois qu'un gouvernement ou qu'une coalition ou que des alliances souverainistes peuvent gouverner le Québec de manière crédible et en proposant une alternative, quelle qu'elle soit, de gauche, de droite, aux libéraux, ça va redonner confiance aux Québécois envers le véhicule politique ou les véhicules politiques de l'indépendance. Et ainsi, peut-être qu'on va retrouver une certaine passion, une certaine crédibilité ou un certain engouement envers la question nationale.
David Leroux, Jean-François Daou avance quelque chose de très intéressant. J'espère ne pas mal traduire sa pensée, mais il y a au Québec aujourd'hui un sentiment d'impuissance politique, c'est-à-dire le règne éternel des libéraux et devant lequel bon, il y a une espèce de fragmentation de l'opposition. Et on a l'impression qu'on aura beau faire ce qu'on veut, les libéraux sont indélogeables. Et est-ce que la condition première, avant même, je dirais, d'un nouvel indépendantisme qui fonctionnerait à la fanfare, là, avec tambour et trompette, est-ce que la condition première, la première étape de tout, d'un nouvel étapisme, disons ça comme ça, ça ne serait pas d'être capable de déloger les libéraux simplement pour des raisons qui relèvent presque du salut public?
C'est certain que, en tant que parti politique, on ne peut pas espérer faire grand-chose sans prendre le pouvoir. Le problème que pose le fait que le Parti libéral du Québec semble être en voie de devenir le parti naturel de pouvoir au Québec, donc indélogeable, avec un bloc d'appui à peu près inérodable dans la population. Et tout ça par rapport au fait que les électeurs plus nationalistes se fragmentent entre la CAQ, Québec solidaire et le Parti québécois. Bon, c'est certain que c'est un problème et qu'il faut y voir absolument. Il faut, pour ce faire, effectivement, arriver à une forme de coalition. C'est extrêmement important là, de converger. Par contre, je crois que ce genre de coalition-là, plus on en parle, moins on la fait. Il faut la faire, en fait. Il faut simplement se poser comme joueur politique suffisamment attirant pour que les forces se mettent à graviter autour de nous. Et ce que le Parti québécois risque de faire s'il met la convergence et le besoin de se coaliser pour prendre le pouvoir au cœur de sa démarche, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il se met, je reviens à mon expression, il se met en position de joueur faible à la table de négociation.
À toujours dire coalition. Exactement. Il avoue qu'il n'est pas capable de prendre le pouvoir par lui-même.
Exactement, parce que si on regarde la scène telle qu'elle est actuellement, là, Québec solidaire ont quelque chose à gagner hors coalition en 2018. Ils peuvent, un député de plus pour Québec solidaire, c'est une victoire pour eux. Alors, ils n'ont pas besoin du Parti québécois pour faire ça. Pareil pour la CAQ. Hein. La CAQ peut devenir opposition officielle en 2018. Elle n'a pas besoin du Parti québécois pour faire ça. Même plus le Parti québécois sombre, plus ces deux joueurs-là sont avantagés. Alors, si le PQ arrive avec le discours comme quoi on doit absolument se rassembler pour prendre le pouvoir, pour déloger les libéraux, et qu'il se fie sur la bonne volonté des autres joueurs politiques, alors là, moi, c'est là que je vois le réalisme, justement, politique qui entre en jeu. Je vois pas comment on peut en sortir gagnant de ça. Les autres joueurs vont, tous les deux, soit refuser toute coalition jusqu'à la dernière minute et accepter de se coaliser à disons, un ou deux mois des prochaines élections, soit nous faire plier et nous faire plier là, à leur moindre volonté. Donc, à ce moment-là, le Parti québécois se désincarne et se dénature. Je vois vraiment pas l'intérêt. Je vois pas comment on peut... On signe notre arrêt de mort si on fait ça.
Jean-François Daou.
Alors, pour moi, de dire le mot cohésion et donc d'affirmer qu'on n'est pas capable de gouverner toute seule, pour moi, c'est pas de s'affirmer comme étant un joueur faible, c'est du réalisme politique. Là, c'est un terme qui est peut-être galvaudé ces temps-ci, le réalisme politique, mais tout le monde au Québec sait que le Parti québécois à 26 à 28% ne peut pas gouverner toute seule et ne peut certainement pas aller chercher un mandat majoritaire clair de la part des Québécois. On peut pas se réjouir, même si, avec la marge d'erreur, même si le Parti québécois peut remporter une minorité de sièges, c'est certainement pas une victoire pour le mouvement indépendantiste historique tel que les membres le voudraient. Mais donc, de parler de coalition autant, ça n'a jamais été fait, et de jouer le joueur faible, en guillemets, et de concéder des éléments, comme par exemple de tenir des consultations sur le mode de scrutin, ça n'a jamais été fait aussi ouvertement avec Québec solidaire. Et donc, cette fois-ci, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est Québec solidaire qui va avoir le fardeau de dire à ses membres, nous avons dit non à une coalition, malgré le fait que publiquement, le Parti québécois nous a proposé une réforme du mode de scrutin. Ils nous ont dit qu'ils étaient très ouverts à parler d'augmentation du salaire minimum, parler de logement social, de proposer une nouvelle vision en éducation, etc. Et voici pourquoi on a refusé la coalition. Alors, pour la première fois, Québec solidaire aurait ce fardeau-là devant ses membres.
Je poursuis néanmoins sur cette question, parce que vous amenez quelque chose d'important, c'est-à-dire le... Il y a une part stratégique, peut-être. Quand j'ai lu la lettre, tout ça, un peu avant le départ de Pierre-Carl Péladeau et de Véronique Yvon, je crois, à destination des gens de Québec solidaire et compagnie, je me disais, bon, est-ce qu'ils cherchent, autrement dit, à renverser le fardeau de la preuve? C'est-à-dire, on est prêt à tout vous donner, un petit parti minoritaire exigeant, si vous ne, néanmoins, vous nous fuyez, vous faites la preuve, finalement, que derrière vos appels à la coalition, vous jouez en solo, pour le dire ainsi. Donc, vous voyez qu'il y a une part stratégique dans cette posture pour le Parti québécois?
Il y a une part stratégique, évidemment. C'est de la politique. Il y a une part stratégique. Et dans ce cas-ci, si Québec solidaire refuse face à une telle ouverture du Parti québécois, eh bien, moi, j'estime que certains électeurs de Québec solidaire vont être très déçus, notamment les souverainistes de Québec solidaire. Et si si Québec solidaire, en échange, accepte de jouer le jeu du Parti québécois et accepte de jouer le jeu des alliances électorales, eh bien, ça nous amène peut-être à gouverner, ça amène peut-être le Parti québécois à encore toucher à la machine étatique et éventuellement montrer aux Québécois qu'ils sont capables de gouverner une province et potentiellement être crédibles pour gouverner un pays.
Et dans ce scénario, je relance une toute dernière fois sur ça, imaginons le PQ s'entendre avec la CAQ, les libéraux sont évidemment là, quel espace croyez-vous qu'occupera la... Excusez-moi, le PQ s'entend avec Québec solidaire, quel espace restera-t-il à la CAQ dans les circonstances?
Eh bien, il y a certainement des gens au Parti québécois, des nationalistes, ceux qui ont assumé pleinement la charte, et ils étaient quand même plusieurs au Parti québécois, ce nationalisme qu'on a qualifié d'identitaire, parfois à tort, parfois à raison, mais ces gens-là pourraient ne pas prendre l'idée de gouverner avec la bénédiction de Françoise David et d'Amir Kadir et pourrait se tourner vers un pragmatisme qu'est la CAQ, une espèce de prix de consolation, si on veut, vers un parti nationaliste, autre que le Parti québécois.
David Leroux, non. Est-ce que je reprends les termes de l'analyse de Jean-François Daou qui nous dit finalement le Parti québécois a davantage à gagner à se tourner vers Québec solidaire? Je note d'ailleurs que personne n'évoque ici la possibilité d'une alliance avec la CAQ d'une manière ou de l'autre. La question que je me pose et que je vous pose dans les circonstances, c'est est-ce qu'on doit considérer les gens de Québec solidaire comme des frères égarés lorsqu'on est souverainiste ou comme des adversaires des adversaires résolus qui portent un masque souriant?
Bien, ils prennent plusieurs visages, j'ose croire. Québec solidaire n'est pas un bloc monolithique. Il y a plusieurs types de militants au sein de ce parti. Certains sont des frères égarés, certains sont des psychorigides qui vont refuser en fait essentiellement toute forme de nationalisme et donc le projet souverainiste à la base, parce que pour eux c'est indubitablement relié à la question identitaire et qu'ils en ont un dédain maladif. Vous mentionniez que personne évoquait la possibilité d'une alliance avec la CAQ. En fait, moi, j'évoque la possibilité d'une alliance avec n'importe qui. Je ne crois pas que cette alliance-là puisse raisonnablement se tramer au grand jour dans les médias. Là, je reviens à ce que je disais. Plus on en parle, moins on la fait. Il faut la provoquer, cette alliance-là. Et la meilleure façon de la provoquer, c'est d'attirer nos frères égarés qui sont ailleurs à naturellement se joindre à nous. Maintenant, le point de vue exprimé par M. Daou est intéressant, celui selon lequel en appelant à une alliance des forces souverainistes, on met le fardeau du refus de la coalition sur les épaules de Québec solidaire. C'est une stratégie qui me semble tout à fait intéressante. Ça va certainement heurter les plus souverainistes, les plus indépendantistes de ce parti. Moi, j'ai pas d'objection à ce qu'on fasse ça. Ça, c'est du marketing politique. On n'est pas dans l'action. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, je ne m'oppose pas à ça nécessairement, là, mais je crois qu'on ne doit pas miser là-dessus. Là. C'est que du marketing. Il faut aller au fond des choses. Il faut refonder là, un programme. Il y a un congrès qui s'en vient au Parti québécois. Et puis, ça va être important d'y voir. Ça va être important d'inclure la souveraineté là-dedans. Là.
Et nous reviendrons sur ces questions après la pause. Donc, nous prenons une pause de quelques instants de retour à la vie des idées donc, pour cette discussion sur état des lieux au Parti québécois avec Jean-François Daou et David Leroux.
Radio VM.
Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour cette discussion avec Jean-François Daou et David Leroux sur l'état des lieux au Parti québécois. Alors, dans la première partie de l'émission, nous avons réfléchi assez ouvertement sur cette fameuse question de la stratégie à suivre pour le Parti québécois dans les prochains temps. Doit-il le s'allier avec Québec solidaire? Doit-il le faire un virage à gauche? Doit-il mettre de l'avant son option indépendantiste? Peut-il faire autrement d'ailleurs? Et quel est l'état des lieux du projet souverainiste au Québec? Dans la deuxième partie, j'aimerais que nous parlions un peu
des enjeux programmatiques autour desquels peuvent se recomposer une offre politique nationaliste ou souverainiste au Québec. C'est-à-dire, les deux termes ne se confondent pas mais ne sont pas étrangers, mais comment peut se recomposer cette offre politique? Et je poserai d'abord sur la question dont nous avons effleuré un peu, la fameuse question identitaire. Alors, quel bilan, Jean-François Daou, quel bilan faites-vous de ce virage identitaire enclenché en 2007 jusqu'à aujourd'hui, qui consistait pour le Parti québécois à revenir avec son nationalisme pré-95 d'une certaine manière? Quel bilan faites-vous de cette stratégie identitaire et croyez-vous qu'elle demeure aujourd'hui un élément positif pour le mouvement souverainiste?
L'aspect identitaire, pour moi, n'a pas été... L'élément qui a coulé le Parti québécois, comme certains l'ont dit. Après, c'est normal que certains députés, certains candidats potentiels à la chefferie prennent leur distance par rapport à ce qui a été fait. On veut se détacher un peu du passé lorsqu'on veut amener du renouveau. Mais pour moi, ça n'a pas été ça qui a coulé le Parti québécois. Donc, la question identitaire était au cœur du programme. Et pour moi, n'a pas été si bénéfique que ça, mais n'a pas été non plus si désastreuse. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'elle n'a pas bénéficié tant que ça à un parti auquel on aurait pu s'attendre, et c'est la défunte... Bah, vous avez parlé de 2007 jusqu'à 2015, mais durant cette période-là, post-ADQ, la CAQ n'a pas su bénéficier, n'a pas repris le flambeau de l'ADQ et de Mario Dumont.
Vous trouvez?
Ben, disons, elle l'a repris.
À l'élection de 2014, je peux me permettre deux questions. En 2014, dans les deux fameux débats des chefs, la CAQ est plus affirmative, parle davantage de la question de la laïcité, appelons ça des accommodements, que le PQ. Et depuis quelques mois, la CAQ, qui a par ailleurs monté dans les sondages, met de l'avant une politique assez décomplexée sur l'identitaire, non?
Oui, c'est vrai. Elle est de plus en plus décomplexée. Là où je voulais en venir, c'est simplement que ça ne lui a pas bénéficié autant que la question identitaire a pu bénéficier à un parti à l'époque de Mario Dumont, par exemple. Oui, la CAQ a monté récemment, mais elle a déjà monté auparavant et elle est redescendue assez vite. Donc, pour moi, c'est pas l'élément central qui va faire gagner la CAQ ou non. Alors, j'en tirais un bilan qui est assez fade, sans trop, je dirais pas haro sur la quête identitaire, ni non plus que le reste va jouer là-dessus, mais certainement ça reste important pour une bonne partie des membres du Parti québécois, mais je crois qu'en échange d'une coalition, ils sont prêts à renoncer à ça, et ceux qui sont pas prêts à renoncer à ça, d'après moi, la CAQ, qui se décomplexifie de plus en plus. Notamment, c'est peut-être anodin, mais leur position sur la base militaire francophone, où les francophones militaires ne peuvent plus avoir de diplôme universitaire sans déserter vers une province anglophone, eh bien, ça s'inscrit dans ce tournant-là. Mm-hmm. Certainement que s'il y a une coalition de gauche, le Parti québécois va perdre des militants qui vont se retrouver avec un François Legault identitaire nationaliste.
Mais est-ce que vous craignez pas, dans ce scénario, quelque chose, donc au-delà des quelques-uns qui déserteraient, un retour à 2007? C'est-à-dire, puisque la question dite identitaire est une question passionnelle aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une des questions qui peut amener des gens à se mobiliser pour la chose publique alors qu'en général ça les intéresse pas particulièrement et qui peut provoquer des réalignements. On se souvient de l'élection de 2007 sur la question des accommodements raisonnables, l'ADQ avait déclassé le PQ. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que dans un scénario où le Parti québécois n'est pas capable de porter son projet souverainiste, véritablement, donc, et où le marqueur identitaire devient le marqueur du nationalisme, donc ce qui distingue un nationaliste aujourd'hui, c'est pas celui qui va faire l'indépendance demain, mais celui qui défend la majorité francophone d'une manière ou de l'autre. Est-ce que vous craignez pas un retour du scénario 2007 dans une telle perspective?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de stratégistes politiques qui ont été traumatisés en quelque sorte par l'effet de la charte de 2012, parce qu'ils estiment, bon, je vous les ai dit, selon moi, c'est faux, mais parce qu'ils estiment que c'est la charte qui a coulé le Parti québécois en 2014 lors de l'élection, et on n'osera pas retourner sur ce terrain-là, ou à tout le moins pas de façon aussi frontale.
David Leroux. Alors, cette question identitaire, qui évidemment ne se résume pas à un seul aspect, hein, elle a une formulation plus traditionnelle, c'est le nationalisme linguistique, une formulation plus contemporaine dans les débats liés au multiculturalisme, c'est les questions de laïcité, d'intégration, d'accommodement raisonnable. Mais donc, le Parti québécois, depuis quelques années, avait cherché à se réapproprier ça. Là, il y a la tentation manifeste parmi les candidats déclarés à la chefferie de laisser de côté un peu cet enjeu. Que retenez-vous de ce virage identitaire? Et que croyez-vous que le Parti québécois doit faire de cet enjeu?
Je crois que se débarrasser des questions identitaires pour le Parti québécois est une erreur extrêmement grave. Ça rend le projet souverainiste hémiplégique, à mon sens. Maintenant, il y a une réelle difficulté pour le Parti québécois d'aborder cette question-là. Le Parti est stigmatisé, hein, par la caste médiatico-intellectuelle métropolitaine. Concernant la question identitaire. Cette question, toutefois, touche une vaste majorité, j'ose croire, de la population québécoise francophone hors Montréal. Donc, le Parti québécois, en même temps, ne peut pas en faire l'économie de cette question-là et il doit être extrêmement prudent quand il l'aborde. Parce qu'il va se faire, dépeindre et diaboliser dans les médias comme ça a été le cas avec la charte, par exemple. La charte en tant que telle, l'épisode de la charte là, en 2014, je crois que c'est exagéré de dire que la charte a coulé le Parti québécois. Tout comme je crois que c'est exagéré de dire qu'elle aurait pu le faire triompher. Il y a eu un problème de présentation, un problème de marketing politique par rapport à ce document-là. Je ne suis pas certain que le parti était prêt à réellement aller en élection là-dessus.
D'ailleurs, il ne l'a pas fait. Rappelez-vous, les premières semaines de la campagne, la question identitaire était disparue soudainement. La publicité, c'était plutôt Pauline Marois qui va nous gouverner.
C'est vrai.
La charte réapparaît dans la campagne après 3 semaines quand on se rend compte que le Parti québécois est en train de couler et que la souveraineté est en fait le sujet qui domine la campagne.
Oui, la souveraineté est le sujet qui domine la campagne.
Ou l'impuissance souverainiste, plus exactement.
Oui. Parce qu'il faut, dire une chose hein, sur le rôle de la question nationale aux élections de 2014. La position, il y a eu PKP avec le point levé qui dit « bon, je suis en politique pour faire du Québec un pays », très bien. La réaction officielle du parti par la suite, hein, ça a été « on fera un référendum si les gens le veulent », n'est-ce pas? Et avec cette stratégie-là, en disant ça, ce qu'on a réussi, c'est extraordinaire, on a réussi à faire croire aux souverainistes qu'il n'y aurait pas de référendum au prochain mandat, et on a réussi à faire croire aux fédéralistes qu'il y aurait un référendum au prochain mandat. Alors, si c'est pas un échec retentissant que cette stratégie-là, je me demande ce que c'est. Il faut aller droit au but, là, à mon avis. Mais bon, on parlait d'identité, là. Je m'égare un petit peu, là. Je ne crois pas, donc, le Parti québécois doive se distancer et oublier la question identitaire, là. Vraiment pas. Ça doit être très important pour lui.
Jean-François Daou.
Oui, eh bien, sur la souveraineté, lorsqu'elle a... elle est devenue l'objet médiatique numéro un au Québec. Ce qui vraiment était problématique pour le Parti québécois, c'est que sa chef, Mme Marois, n'était pas en mesure de dire oui ou non, est-ce qu'elle allait tenir un référendum. Et je me souviens très bien d'un débat des chefs où, dans son, permettez-moi l'expression, mais son closing statement, elle commençait en disant « Vous savez, moi, je suis une femme d'écoute, et lorsque les Québécois sont prêts, j'irai de l'avant avec le projet souverainiste. » Et ça, ça a convaincu personne, comme David l'a exprimé. Ça a été un repoussoir pour les souverainistes et ça l'a convaincu les fédéralistes de se mobiliser contre le Parti québécois. Et le prochain chef, puisqu'on parle de stratégie pour ramener le mouvement en avant, je l'ai exprimé précédemment, je crois qu'il faut d'abord montrer qu'une coalition ou des alliances, que ce soit avec la CAQ ou Québec solidaire, puissent bien gouverner une province pour ensuite gouverner un pays. Mais pour prendre le pouvoir, il faut que clairement le chef puisse dire si oui ou non il y aura un référendum dans le prochain mandat. Et pour moi, c'est clair que la réponse devra être non. Alors, lorsque on connaît par exemple la position d'Alexandre Cloutier sur son mode d'accession à l'indépendance, c'est de mobiliser 1 million de signatures, puis ensuite on enclenchera le processus. Alexandre Cloutier n'est pas en mesure de nous dire non, il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat, mais n'est pas non plus en mesure de nous dire oui, il y aura un référendum dans le premier mandat. Et donc, on en revient à la même stratégie qui peut décevoir tout le monde. Alors, ce sera très intéressant lors de la course à la chefferie de voir, par exemple, Véronique Yvon ou d'autres candidats s'il y en a.
Pierre Serré.
De voir si eux vont. Bernard Drinville était un des seuls à peu près à dire, moi je vais dire aux Québécois si oui ou non il y aura un référendum dans le premier mandat. Pour moi, cette question-là est cruciale et on peut pas y échapper.
Laissez-moi vous soumettre une hypothèse un instant et vous me direz ce que vous en pensez. La raison pour laquelle Bernard Drinville pouvait, lors de la course à la chefferie précédente, dire qu'il ne ferait pas de référendum sur la souveraineté, c'est que son nationalisme ne se résumait pas à un souverainisme. Je m'explique. C'est-à-dire, pour un Alexandre Cloutier, pour l'aile gauche du Parti québécois, qui paradoxalement pratique une forme de souverainisme non nationaliste, disons ça comme ça, donc la souveraineté, on en parle, mais sur le reste, on n'a pas de mesure nationaliste à mettre de l'avant, parce que mauvaise conscience identitaire et ainsi de suite. Alors qu'un Drinville, parce que son souverainisme complétait son nationalisme, disons ça comme ça, mais il peut dire, si les circonstances ne sont pas bonnes pour le référendum, eh bien, on est capable de faire autre chose en attendant. On est capable de mettre un programme nationaliste fort en attendant, tout en se disant qu'on vise toujours à l'horizon à long terme. Quand vous nous dites l'enjeu, c'est tenir ou non un référendum, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça ne passionne aujourd'hui qu'environ 15% de la branche militante, l'aile militante du Parti québécois, que l'immense majorité des souverainistes aujourd'hui, militants ou non, personne n'a envie de partir dans un référendum suicide. Et donc la question aujourd'hui, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait du pouvoir quand par ailleurs on peut pas atteindre le grand soir. Donc est-ce que vous croyez vraiment que cette question confisquera vraiment la chefferie autant, ou est-ce qu'il n'y a pas de l'espace pour autre chose?
Je pense qu'elle le fera et je pense qu'elle devrait le faire, parce que là vous parlez d'un 15% de la branche militante qui est vraiment excitée à savoir si oui ou non il y aura un référendum.
L'option nationalisme,
oui,
ça comme ça.
Tout à fait. Mais moi, je vous parle du reste de la population en dehors des bases militantes qui, elle est obsédée par la question à savoir si oui ou non il y aura un référendum.
Ah, vous croyez que ça obsède vraiment la population?
Ça fait peur. Et avec raison, avoir la possibilité de briser un pays, ça fait peur avec raison. Certains vont être enthousiastes face à ça, mais dans tous les cas, ça fait peur.
Mais selon vous, la population... Je renverse la question un peu, mais ceux qui souhaitent à tout prix un référendum, là, vous croyez qu'ils sont nombreux même au Parti québécois aujourd'hui? Si tel est le cas, il m'arrive de me promener dans le mouvement souverainiste ou pas très loin, et je connais très peu de gens, sauf les zonistes, qui s'imaginent qu'un référendum est urgent rapidement.
Je pense qu'ils sont peu nombreux, mais la question est plutôt de savoir s'ils sont... nombreux ceux qui estiment que le prochain chef pourra dire non, il n'y aura pas de référendum.
D'accord.
C'est plutôt ça la question.
Je comprends bien.
On est peut-être encore dans le marketing politique, mais pour moi...
Ça compte.
Ça, voilà.
Alors, David Leroux, je vous ai fait souffrir en vous privant de parole pendant 1 minute 22.
Quelle horreur.
Allez-y.
Alors là, on se calme. L'excitation référendaire, là, à Option nationale, au Parti québécois. Les militants souverainistes ne sont pas excités par un référendum. Ils sont excités par la souveraineté. Ils veulent faire l'indépendance du Québec. Le référendum est un moyen d'y arriver. Il commencerait à être temps, à mon avis, là, de repenser la survenue de ce référendum-là dans l'ordre des choses là, dans notre projet souverainiste. On est depuis très longtemps dans l'idée d'un référendum qui enclenche le processus de séparation. Je suis plutôt partisan, moi, de l'option du référendum ratificateur qui survient à la fin. On ne prend pas le pouvoir en promettant de demander aux gens d'enclencher notre gouvernance séparatiste. Parce que ce qu'on fait en faisant ça, en réalité, c'est qu'on demande aux gens de nous mettre au pouvoir en ayant au cœur de notre programme quelque chose, un projet qui ne pourra peut-être pas se réaliser. Je crois que c'est très difficile de soulever l'appui des gens sur une base comme celle-là.
Quand on promet sa propre impuissance.
Exactement, voilà.
Alors, je crois entendre ici les propositions qui sont celles de Parizeau Laplante, comme on disait.
Et voilà, j'en suis un ardent défenseur.
Mais, je comprends que la question du référendum est importante tactiquement ou stratégiquement, ou tout le moins, il faut clarifier l'enjeu. Imaginons néanmoins, parce qu'une chose me frappe souvent chez les souverainistes, c'est que j'ai l'impression que les souverainistes sont particulièrement doués pour se parler entre eux. D'un colloque à l'autre, ils refondent la nation, ils informent ensuite de la nation,
nation qu'elle a été refondée, et la nation, pendant ce temps-là, détourne, ne s'occupe pas véritablement de ce que disent des souverainistes autistes et autoréférentiels. Alors, peut-être que les enjeux aujourd'hui, c'est que les souverainistes pourraient être capables de sortir de ce piège historique où ils semblent un peu enfermés dans une avenue qui les condamne. C'est aussi d'être capable de renouer avec des préoccupations profondes du peuple québécois, tout en les éclairant à la lumière du souverainisme, évidemment. Jean-François Daou, quels sont les thèmes, selon vous, autour desquels, au-delà de l'alliance stratégique entre PQ, QS, ON, etc., quels sont les thèmes autour desquels une offre politique, appelons ça nationaliste, peut se bâtir aujourd'hui et serait porteuse pour ceux qui décideraient de s'en réclamer?
Mais je dirais qu'il y a un vide depuis quelques années au niveau de la protection du français. On a vu certains mouvements. Bon, évidemment, il y a le mouvement Montréal français. La société Saint-Jean-Baptiste s'en occupe également. Mais je crois qu'il y a un vide. J'ai rarement vu ces dernières années un politicien. Bon, Madame Navid nous a servi quelque chose, un peu de réchauffer ces dernières semaines, mais rarement vu dire il y a quelque chose à faire au niveau du français, notamment à Montréal, et il faut agir en conséquence, il faut être conséquent. On a la loi 101, on connaît son esprit. Donc pour moi, il y a ce thème-là qui est porteur d'avenir au niveau nationaliste, mais sinon, ce sera tout plein d'autres enjeux.
Ah, mais au-delà des thèmes nationalistes, c'est-à-dire selon qu'environnement, je dirais les thèmes qui sont dans un contexte où on dit que les libéraux suscitent la grogne, par exemple. Ouais. On dit que les libéraux suscitent l'insatisfaction. Alors, la question que je me pose, c'est si on cherche une alternative au Parti libéral, appelons ça comme ça, où se trouve l'alternative potentiellement majoritaire? Autour de quel thème? Au-delà
l'éducation,
même.
L'éducation, par exemple. La CAQ est en train de se bâtir une coalition d'électeurs nationalistes, mais également, on dit que la population est en grogne contre les libéraux. Ma lecture, c'est surtout en éducation. Pendant des semaines, les photos d'écoles primaires qui allaient s'écrouler ont fait les manchettes. Il y a eu un reportage fameux d'Infoman là-dessus. Et là, tout d'un coup, la CAQ tient un colloque non-partisan sur l'éducation. Donc, c'est pas anodin pour moi. On peut se former une alternative nationaliste et également un projet d'éducation comme la CAQ le fait. Ça peut être une des avenues envisageables. Nationaliste, mais avec d'autres thèmes qui touchent pas nécessairement la souveraineté ou le nationalisme.
David Leroux, y a-t-il des thèmes autour desquels une alternative antilibérale, hein, c'est assez inclusif ça, donc une alternative antilibérale puisse se construire?
Certainement. L'éducation en est une. L'environnement en est une autre. L'alternative antilibérale, comment dire, elle doit embrasser large. Elle doit appeler à une reconstruction d'un modèle québécois au sens large. Un modèle québécois plus moderne, peut-être, mais elle doit s'orienter aussi, je crois, autour d'un certain nationalisme. Donc, autour un peu du slogan « Maître chez nous », peut-être, utilisé par Le Sage. C'est qu'on se sent... nous sommes dépossédés, je crois, actuellement, lentement, par les politiques du Parti libéral du Québec. Et ça fait mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens, tout ça. Ça vient chercher les gens. Je crois que ce thème-là est extrêmement important. Donc, pourquoi pas? Reprenons le slogan de 1960.
Mais David Leroux pose une question très importante ici, je crois. C'est-à-dire, il parle du sentiment présent dans la société québécoise. Il nous reste une dizaine de minutes environ. J'aimerais un peu nous amener sur ce thème. Quels sont, selon vous, les sentiments dominants, politiques dominants aujourd'hui au Québec? Je m'explique. On pourrait dire que dans les années 90, c'était le sentiment d'indignation constitutionnelle. C'est-à-dire, il fallait corriger. Il y avait une urgence dans le cœur des électeurs, comme quoi il fallait corriger quelque chose sur le plan constitutionnel. Il fallait que l'honneur soit lavé. Dans les années 60, c'était le rattrapage ou le redressement national. Bon. J'essaie de voir aujourd'hui quels sont les sentiments dominants de notre vie politique, à tout le moins ceux autour desquels il est possible de capitaliser politiquement. Jean-François Daou, quels sont, selon vous, ces sentiments présents dans la population autour desquels il est possible de bâtir un discours politique qui résonne finalement avec les préoccupations populaires?
Je crois qu'un des courants dominants, bon, dans les années 90, c'était contre... quelque chose qui résonnait au niveau de la Constitution. Peut-être que les gens sont contre la domination, peut-être contre la façon dont le système politique est fait, qui fait en sorte que les libéraux puissent dominer autant, avec 35-37% des voix. Et donc, ça amène beaucoup de cynisme chez la population, un sentiment d'efficacité qui est beaucoup moins grand que dans les années 80-90. Bon, empiriquement, ça se voit dans les sondages, les gens ont l'impression d'avoir moins de pouvoir, moins d'emprise sur la politique en général. Puis un des indicateurs, c'est que il y a de moins en moins de membres actifs chez les partis politiques. Alors pour moi, ça peut se reconstruire au niveau d'une nouvelle démocratie, entre guillemets. Bon, ça veut tout dire et rien dire en même temps, une nouvelle démocratie. Évidemment, un des thèmes récurrents, c'est le mode de scrutin. Peut-être que ça devra passer par ça. Peut-être que ça devra passer au niveau d'une meilleure représentation. Le danger là-dedans, c'est que ça vient souvent avec un discours qui est très très populiste, qui met d'un côté ceux qui protègent le système actuel, donc les deux partis principaux, et d'un autre côté tous ceux qui espéraient une réforme. Il y a un glissement qui peut s'opérer là, mais je pense que au niveau d'une meilleure démocratie ou d'une démocratie nouvelle,
un sentiment d'impuissance démocratique.
Tout à fait, un sentiment d'impuissance démocratique. Mais pour l'instant, je vois pas comment s'articule la réponse face à ça, sinon que par des réponses traditionnelles, c'est-à-dire bon, prenons position pour une proportionnelle, adoptons des référendums d'initiative populaire. Comme ben le Parti québécois avait touché un petit peu à ça il y a certaines années là. Bernard Drinville avait fait des consultations exceptionnelles et en était revenu avec plusieurs mesures, dont les référendums d'initiative populaire. Je crois que c'est un des thèmes qui va revenir et qui est appelé à revenir dans les prochaines années.
J'aime les comparaisons historiques et je vous en soumettrai une. Si je vous disais, David Leroux, que nous sommes quelque part en 1956 ou en 1957, c'est-à-dire, évidemment, le contexte a changé, mais un pouvoir qui est pas total, mais qui est très présent sur la société québécoise est là, provoque un sentiment d'exaspération, mais au même moment un sentiment de blocage. Les forces d'opposition ne savent pas où se canaliser, les intellectuels vont d'un côté, le peuple va de l'autre, et par ailleurs, la société au total ne se sent pas si malheureuse que ça. Elle se sent à la fois bloquée, mais pas si malheureuse. Le confort nord-américain, il y a pire comme mauvais sort dans l'histoire. Alors, si je vous dis qu'on a une situation qui peut peut-être faire penser aujourd'hui aux dernières années avant la Révolution tranquille, est-ce que c'est une analyse qui vous rejoindrait ou qui vous semble exagérée?
Vous me prenez au dépourvu. Je ne saurais que dire. Je ne saurais répondre à cette question. Bon, je peux peut-être esquisser une réponse, en fait. On semble s'approcher d'un moment pivot politiquement au Québec. À ce titre, on peut établir, je crois, une comparaison avec la fin des années 50. Il y a une tension politique au Québec actuellement, qui est nourrie par ce sentiment d'impuissance que vous évoquiez il y a quelques instants avec Jean-François. J'aimerais peut-être parler un peu de notre système. Hein. Actuellement, on est dans un système électoral uninominal à un tour. Et ce système-là fonctionne bien lorsqu'il y a bipartisme. Alors, lorsqu'il y a deux partis politiques. Et conséquemment, lorsque l'électorat se structure son comportement politique selon un axe, un seul axe à deux extrêmes. Donc,
bien d'accord.
Gauche, droite économique ou question nationale où il y a un extrême du spectre qui est le fédéralisme et l'autre extrême qui est le séparatisme. Actuellement, là, on est dans un moment où il va avoir une reconfiguration des forces à quelque part. Cette reconfiguration-là va arriver naturellement, je crois, parce que nous avons d'une part l'axe gauche-droite sur la scène politique québécoise là, qui est incarné par, bon, à la droite, on a Québec solidaire, on a un peu le Parti libéral, et on a l'axe de la question nationale. Donc, on a maintenant deux axes, là, on a toujours le même système.
J'en ajouterai un troisième, hein. Il y a l'axe gauche-droite, l'axe souverainiste fédéraliste et l'axe identitaire multiculturaliste. Et les trois n'ont pas le bonheur de se croiser tout le temps.
Vous avez raison, ça complexifie d'autant plus la façon dont les Québécois vont décider de leur comportement politique. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que malgré tout, on reste dans notre système uninominal à un tour qui favorise le bipartisme et une espèce de dualisme d'options idéologiques. Alors là, les gens, on est tout mêlé aujourd'hui. On a trop d'options, on a trop d'axes par rapport à ce qu'on peut exprimer lors d'une élection. Donc, oui, on est à un moment de rupture, peut-être. Il va y avoir un réaliment qui va se produire. De quelle nature sera-t-il? Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Vraiment pas. Mais j'espère que ça jouera en la faveur de l'indépendance du Québec, toutefois.
Jean-François Daou, sommes-nous en 1956?
Non, nous ne sommes pas en 1956 parce que vous avez dit quelques années que 1956 représentait quelques années avant les derniers moments avant la Révolution tranquille. Et pour moi, je suis pas d'accord avec cette interprétation historique-là. Pour moi, la Révolution tranquille se prépare bien avant.
Ah oui, se prépare depuis les années 20.
Se prépare depuis les années 20 avec le refus global en 1948. Alors pour moi, il y avait une espèce de connexion déjà qui était là. Et
certains vous diront que on s'en rend compte après coup, c'est-à-dire que le jour où il y aurait une espèce d'explosion politique au Québec, on dirait que depuis 20 ans tout se préparait.
Oui, certainement. Ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est ad hoc que c'est une mauvaise explication non plus. Voilà, ça, ce serait ma réponse courte. Non, nous ne sommes pas en 1956. Le terrain était préparé, tandis qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment le terrain peut paraître préparé comme il l'était en 1956.
Alors, sur ces paroles d'une lucidité terrible, mais tout à fait nécessaire, hein, mieux vaut ne pas se mettre des lunettes roses devant le regard quand on fait de l'analyse politique. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici aujourd'hui. Jean-François Daou, doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal.
Un plaisir.
Et David Leroux, je vous invite à consulter son blog Espace qui est disponible. Bon, vous pouvez le trouver sur sa page Facebook. Quoi qu'il en soit, chers amis, c'est un immense plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette discussion et au plaisir de se reprendre la semaine prochaine pour une autre émission de La Vie des Idées. Merci infiniment.